Et les grands titres d'abord de ce mardi, le footballeur Hakim Al-Araibi, qui détient aussi le statut de réfugié politique en Australie, a été libéré de sa prison thaïlandaise. Les travaux parlementaires ont repris à Canberra ce mardi. Interdiction totale d'allumer des feux en Nouvelle-Galles du Sud ce mardi avec des températures extrêmes prévues. En Australie, le Premier ministre Scott Morrison a fait appel à ce qu'il dit être la force du peuple à la reprise des travaux du Parlement fédéral à Canberra. Il a pris la parole devant ses collègues de la coalition libérale lors d'une réunion commune ce matin. Il s'agit de la seule quinzaine de séances prévues pour le Parlement fédéral avant le budget prévu pour le 2 avril. Scott Morrison a déclaré que son gouvernement est pour une Australie plus forte, tandis que le Parti travailliste affaiblirait l'Australie dans des domaines clés.
Under our government, we're going to continue to make Australia even stronger.
Yeah.
That's what we're about. A stronger economy, stronger borders, stronger services. That's a stronger Australia, and that's what we're about. Our opponents have plans that will make Australia weaker. To weaken the economy, to weaken our borders, and you can't pay for services with money that's not there, and we all know Labor cannot manage money.
Yeah.
Le footballeur Hakim Al-Araibi a été libéré d'une prison de Thaïlande. Il est sur le chemin du retour dans un avion qui va atterrir à Melbourne cet après-midi. Le jeune homme de 25 ans a été arrêté à Bangkok en novembre pour des actes de vandalisme présumés dans son Bahreïn natal. L'ancien footballeur Craig Foster, qui a dirigé la campagne pour libérer Al-Araibi, a déclaré qu'il ne se sentirait pleinement soulagé que lorsque le footballeur serait sur le sol à Melbourne.
Well, look, it's incredible news. It's been going on for a few days and, you know, we've been hoping for probably the last 72 hours or so. Once he touches down in Melbourne, that's when I think everyone will be, you know, just incredibly elated.
La ministre australienne des Affaires étrangères, Maryse Payne, a remercié tous ceux qui ont aidé dans les démarches concernant Hakim Al-Araibi.
The Australian community has also played a significant role, from the leadership of Craig Foster and his many followers to the Pasco Vale Football Club itself, which has become, well known as a football association in Australia, and to many other Australian sports people who have taken up the cause.
Selon le Parti travailliste, les autorités australiennes ont des questions à poser sur la détention de Hakim Al-Araibi en Thaïlande, alors qu'il est un résident permanent en Australie avec un statut de réfugié politique. La porte-parole du Parti travailliste sur les questions des affaires étrangères, Penny Wong, déclare qu'une fois Hakim Al-Araibi est rentré en Australie, l'attention doit se porter sur l'implication de l'Australie dans sa détention.
And I would encourage the government to be upfront about those. We do need to consider whether or not the automated Interpol red notice system is fit for purpose, particularly when it comes to people who have found to be refugees.
Le projet de loi autorisant les demandeurs d'asile à se rendre en Australie pour se faire soigner fera l'objet d'un débat lors de la reprise des travaux au Parlement fédéral ce mardi. Le Parti travailliste a déclaré qu'il soutiendrait le projet de loi s'il pouvait être modifié pour que le ministre des Affaires étrangères ait le pouvoir de refuser l'accès à un demandeur d'asile sur la base d'une évaluation de son caractère. Les travaillistes sont également pour que la loi ne s'applique qu'aux personnes actuellement en détention à l'étranger afin de garantir la protection des frontières. Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré que le projet de loi entraînerait l'arrivée de plus de bateaux de clandestins.
I know what compromise and poorly thought through changes can do to our borders. Labor proposes to do both. Again, they have learned nothing from their failures on border protection.
La députée indépendante Karen Phelps sur Sky News parle des amendements que propose le Parti travailliste.
We have to have a very careful look at Labor's amendments and particularly the wording. I'm certainly not hostile to some of those concepts, but it's important that we speak this morning to advocates in the refugee sector and lawyers and to the other crossbenchers, of course. And I'll also be talking to Labor this morning.
Une interdiction totale d'allumer des feux est en vigueur pour la Nouvelle-Galles du Sud ce mardi. Les températures prévues seront entre 37 et 42 degrés. Avertissement que la hausse des températures avec des vents forts pourrait déclencher des incendies. Il y aurait des centaines d'espions à Bruxelles, selon le quotidien allemand Die Welt, des espions russes et chinois. Explication de Johanna Hochstein pour Radio France Internationale.
Nous sommes ici au cœur du quartier européen. Les fonctionnaires en costume-cravate, pour la plupart, sortent pour déjeuner. Des diplomates qui seraient donc espionnés par des agents chinois et russes. Une surprise pour les principaux intéressés ?
Non, non, parce qu'ils ont intérêt pour l'Europe, pour les choses économiques.
Je pense que l'Europe est un centre de pouvoir, que les gens n'en ont pas conscience.
Les services de sécurité auraient même demandé à leurs employés d'éviter un restaurant du quartier spécialisé dans les grillades et certains cafés, des précautions que prennent déjà ces fonctionnaires roumaines.
Qu'il y a des espions russes ? Je m'attendais.
Dans les cafés, peut-être même ici.
On ne reste pas dans le café, on va se promener dans le parc.
Les administrations des différentes institutions donnent en fait depuis des années toute une série de directives à leurs fonctionnaires.
Faire attention quand on est dans notre vie privée, de ne pas parler de boulot.
Il y a quelques-uns qui sont pas sur les social media comme WhatsApp, Instagram et puis des choses comme ça. Moi, j'ai jamais joint le Facebook, par exemple.
Des Chinois et des Russes, mais pas que. Les espions américains seraient aussi très actifs ici. Bruxelles est d'ailleurs la seule ville au monde où les 17 agences de la communauté du renseignement américain sont représentées.
En Italie, la Ligue de Matteo Salvini remporte haut la main une élection régionale considérée comme un test avant les élections européennes dans quelques mois. Juliette Gabran, RFI.
C'est une claque pour le mouvement 5 étoiles. Il passe de 40% à 20,2% des suffrages par rapport aux législatives de mars dernier. Une claque d'autant plus douloureuse qu'elle survient dans une région où la Ligue n'a aucun ancrage historique. Ce qui n'empêche pas le parti de Matteo Salvini de doubler son score en un an, passant de 14 à 28% des voix, dans cette région frappée par les séismes meurtriers, où sa présence était jusqu'alors marginale. La coalition de droite qui réunit Forza Italia, la Ligue et l'autre parti d'extrême droite Fratelli d'Italia est arrivé donc largement en tête avec 48% des suffrages et c'est un ancien membre du mouvement néofasciste MSI qui gouvernera la région, Marco Marsilio. La gauche pour sa part résiste mieux que prévu avec 31,3% des voix en dépit d'un piètre score du Parti démocrate. Le déclin des 5 étoiles était prévu mais pas dans de telles proportions et cette élection aggrave très nettement le déséquilibre du tandem gouvernemental à quelques mois des élections européennes. Même si pour l'instant Matteo Salvini s'est voulu rassurant vis-à-vis de son partenaire Luigi Di Maio. En ce qui me concerne, cela ne change rien au niveau du gouvernement, a déclaré le patron de la Ligue à l'issue du scrutin.
Le 32e sommet de l'Union africaine a pris fin hier. Pour les points marquants, Christophe Boisbouvier de Radio France Internationale est à Addis Abeba et il répond aux questions de Zifirin Kouadio qui lui est à Paris pour RFI.
Le président égyptien semble vouloir s'investir sur les questions africaines, ce qui n'était pas évident au départ, tant vous savez, l'Égypte est accaparée par les questions du Proche-Orient. Il a énuméré assez longuement tous les conflits sur lesquels l'Union africaine est intervenue en 2018, continue d'intervenir en 2019, le Soudan du Sud, la Centrafrique, etc. Donc ce qui montre son intérêt pour tous ces sujets. Seule fausse note, tout de même, Zéphir, cette conférence de presse en fait n'en était pas une car aucune question n'a pu être posée ni à Abdel Fattah el-Sissi ni à Moussa Faki Mahamat, le président de la commission de l'UA. C'était en fait une simple déclaration à la presse. C'est une première à ma connaissance dans l'histoire récente de l'Union africaine. Apparemment le raïs égyptien n'aime pas trop que les journalistes lui posent des questions, en tout cas pas ici à Addis Abeba.
Est-ce que cette présidence égyptienne ne pose pas quelques problèmes à l'Union africaine justement ?
Outre la question de savoir si l'Égypte s'investira vraiment sur les questions africaines, il y a aussi la question de l'autofinancement de l'Union africaine qui doit passer, vous le savez, par une taxe de 0,2% sur les importations. Est-ce que l'Égypte qui vit beaucoup de ses relations commerciales avec l'extérieur, va adopter cette taxe? Est-ce qu'elle va la défendre dans l'année qui vient? Là-dessus, Abdel Fattah al-Sissi n'a rien dit de concret. Le seul point concret sur lequel il s'est investi dans ses dernières déclarations, c'est sur la zone continentale de libre-échange. Là, il a promis qu'il ferait avancer les choses. Il semble beaucoup plus intéressé par cette réforme pour le libre-échange sur le continent africain que par cette fameuse taxe de 0,2% sur les importations.
Le Cambodge est menacé de sanctions commerciales par l'Union européenne. Le Cambodge a un accord préférentiel avec l'Union européenne, mais c'est la question du manque de respect des droits de l'homme et du travail au Cambodge qui inquiète l'Union européenne. Explication et reportage de Juliette Buchez pour RFI.
L'an dernier, les exportations cambodgiennes vers l'Union européenne ont représenté près de 4,9 milliards d'euros. C'est le marché le plus important pour les exportations cambodgiennes. Les produits cambodgiens sont aujourd'hui exemptés de taxes douanières sur le marché unique dans le cadre de l'accord Tout sauf les armes, mais ces taxes pourraient être rétablies dès 2020. L'accord préférentiel est conditionné au respect des droits de l'homme et du travail. Or, dans son communiqué, la Commission européenne dit constater des violations graves et systématiques de ces droits. En juillet dernier, des élections législatives controversées ont concédé l'intégralité des sièges du Parlement au parti du Premier ministre Hun Sen, à la tête du gouvernement depuis 34 ans. Cecilia Malmström, commissaire européenne au commerce, précise qu'il ne s'agit ni d'une décision définitive, ni de la fin du processus, mais que des mesures concrètes sont attendues au plus vite. Au Cambodge, l'annonce est froidement accueillie par le gouvernement. Il s'indigne d'une décision qu'il qualifie de particulièrement injuste. Si les sanctions économiques entrent en vigueur, elles pourraient directement toucher les 750 000 Cambodgiens qui travaillent dans l'industrie textile. Le secteur représente à lui seul 70% des exportations cambodgiennes. Nike, Gap, H&M ou Adidas, par exemple, ont des produits aujourd'hui fabriqués au Cambodge.
Aux États-Unis, le président américain est à El Paso, Texas, pour parler du mur qu'il veut construire à la frontière avec le Mexique. Il se dit prêt à un nouveau shutdown en fin de semaine. Explication d'Anissa El-Jabri pour RFI.
La barrière à El Paso, c'est pour Donald Trump l'exemple à généraliser tout le long de la frontière. Le locataire de la Maison Blanche l'avait affirmé il y a quelques jours lors de son discours sur l'état de l'Union. La ville avait un taux extrêmement élevé de crimes violents et depuis l'une des plus sûres de notre pays. Faux, répondent ses opposants qui avancent que la criminalité avait commencé à chuter bien avant. Cela organise une manifestation au moment du discours de Donald Trump, un appel à se réunir, relayé sur son compte Twitter par le charismatique local de l'étape, Beto O'Rourke.
Nous allons affronter les mensonges et la haine. Nous allons le faire avec la vérité et une vision pour le futur de la frontière entre les États-Unis et le Mexique à El Paso. Nous vous attendons d'El Paso, de partout dans le pays. Si vous le pouvez, rejoignez-nous.
Candidat malheureux au Sénat en novembre dernier, Beto O'Rourke pourrait bien entrer dans la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020. Bras de fer à distance donc, car Donald Trump n'en démord pas. Il veut ce mur et tient à le répéter, y compris en terrain hostile. Aux élections de mi-mandat en novembre dernier, le président américain avait recueilli dans ce comté à peine 26% des voix.
Un mot de sport, cricket, Pat Cummins, voté le meilleur joueur de l'année. Il est, comme on dit, un all-rounder, lanceur et batteur. Il a marqué à deux reprises plus de 50 runs et il a pris 44 wickets. Il a obtenu 156 votes pour le Allen Border Medal, 6 de plus que Nathan Lyon, le lanceur. Alyssa Ailey est la meilleure joueuse de l'année et elle gagne la Belinda Clark Medal. Coup d'œil météo pour ce mardi en Australie, Perth maximal de 28 degrés, Adélaïde 21, Melbourne 18 degrés, Hobart 20, Canberra 31, Sydney 37, Brisbane 35, Cairns 35, Darwin 33 et à Alice Springs, maximal de 42 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi, le footballeur Hakim Al-Araibi, qui détient aussi le statut de réfugié politique en Australie, a été libéré de sa prison thaïlandaise. Il est dans un avion et il est attendu cet après-midi à Melbourne. Et puis les travaux parlementaires ont repris à Canberra ce mardi. Interdiction totale d'allumer des feux en Nouvelle-Galles du Sud ce mardi.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench